Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regard d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment de permettre à ceux qui écoutent ce podcast d'élargir leur vision sur le monde à travers des expériences de vie souvent liées à des voyages, à l'expatriation ou à une manière différente de percevoir le monde. Un regard d'ailleurs, c'est vraiment ça, c'est déplacer son regard pour essayer d'appréhender le monde différemment, changer de filtre, parce que finalement, tout est une question de perception et de croyance qu'on va mettre sur une chose, mais finalement une croyance peut facilement se déconstruire dans une culture différente ou quand on change son filtre de pensée. Avec moi, Marie-Laure. Marie-Laure que j'ai rencontrée cet été dans un éco-village. Là, on se retrouve tous les deux face à l'Ardèche, la rivière Ardèche qui coule à côté de nous. Avant de vivre une expérience incroyable qui va être les gorges, la descente des gorges de l'Ardèche, je me suis dit, on va faire un interview pour prendre le temps de te rencontrer parce que dans les échanges qu'on a pu avoir, tu as glissé quelques mots-clés. Tu as parlé de Tahiti, tu as parlé de pays arabes dans lesquels tu es né ou tu as grandi. Tu as parlé de plusieurs choses qui ont éveillé ma curiosité. Donc l'idée, c'est de prendre ce temps de rencontre et de voir tout ce que tu as à partager avec nous, auditeurs. Donc Marie-Laure, je me rapproche de toi pour pouvoir saisir le nectar de ta voix et de ta pensée. Marie-Laure, raconte-moi un peu ton histoire. On va revenir aux origines, peut-être les premiers souvenirs qui t'ont marqué dans ton histoire de vie, dans ta légende personnelle.
Alors, ma légende personnelle, bonjour d'abord, commence dans la forêt, puisque j'ai eu la chance de grandir pas loin d'une forêt dans laquelle je passais pas mal de temps. Et assez jeune, on a eu l'opportunité avec la famille d'aller vivre en Grèce. Et donc, dans la forêt où j'ai grandi, c'était beau, c'était luxuriant, voilà, dans le sud-ouest de la France, donc assez vert. Et arrivé en Grèce, en fait, c'était une végétation beaucoup plus méditerranéenne. Et donc là, j'ai découvert les incendies de forêt. Et donc déjà, je me souviens, assez petite, quoi, que c'était pas normal. Je comprenais pas que tous ces champs soient vraiment brûlés. Donc il y a eu des petites prises de conscience de choses que je pensais acquises, en fait, en grandissant, voilà, et qu'il n'était pas forcément ailleurs.
Tu as quel âge, là, quand tu pars avec ta famille t'expatrier en Grèce ?
J'ai 6-7 ans, donc presque l'âge de raison. et donc ça a été une expérience très très riche. Je me souviens déjà quand mes parents nous l'ont annoncé que moi j'avais cette joie d'aller couvrir d'autres contrées. Depuis petite, je me sens pas forcément que française. Enfin, j'avais ce truc de, en fait, je suis une habitante de la planète, quoi. Et il y en a plein d'autres, Et c'est vrai que, de découvrir d'autres manières de faire, une autre langue. Voilà, moi, j'étais au lycée franco-hellénique, donc à découvrir la mythologie grecque en grec, ou des coutumes là-bas. Je me souviens, on avait participé à des vendanges, donc aller fouler le raisin avec les pieds, enfin, des choses à faire avec la classe. Enfin, c'est des choses que j'aurais pu vivre en France, mais bon, je l'ai vécu là-bas. Et juste le fait de découvrir un nouveau climat avec la neige en hiver, des grosses chaleurs, ça montre qu'il y a d'autres manières de faire qui sont possibles. Et voilà, là-bas, je prenais le bus pour aller à l'école, on avait une heure de bus.
Mais déjà enfant, tu comprends ça ? Tu comprends à 6-7 ans que c'est différent ? Est-ce que tu as des mémoires ? Parce que souvent, l'enfant s'adapte très facilement. Il n'y a pas forcément cette conscience de se dire « Ah tiens, là, il y a de la forêt, avant il n'y avait pas. Ah tiens, ici, il fait plus chaud. Ah tiens, les plantes sont différentes. » Tu étais déjà dans cette observation de cet environnement qui était le tien ?
J'étais dans l'observation, je voyais que là il y avait des forêts brûlées, il y avait des déchets qui étaient devant la porte, qui n'était pas forcément le cas en France, ou de la pollution dans Athènes. Après, je ne me sentais pas forcément différente. Je me souviens avoir demandé à mes parents d'apprendre l'anglais pour pouvoir échanger avec nos voisines, parce que c'est vrai que j'ai appris le grec, mais je ne le parlais pas assez bien pour échanger. Donc non, c'était là on paye en drachmes, les drachmes, ensuite une autre langue. Non, moi j'étais comme dans un poisson dans l'eau. D'ailleurs, j'ai commencé la plongée sous-marine là-bas.
Pourquoi tes parents sont partis en Grèce ? Est-ce qu'il y avait un projet, une idée spécifique derrière ?
Oui, c'était dans le cadre du travail de mon père qui travaille dans l'aéronautique. Et donc là, il y a eu l'opportunité d'aller monter une usine là-bas, vers Athènes. Ouais.
Donc à travers l'histoire de tes parents qui ont été amenés à se déplacer pour des raisons professionnelles, est-ce qu'il y a eu comme ça d'autres expatriations, d'autres pays où enfant tu as suivi tes parents ?
Alors j'étais moins enfant puisque j'étais en seconde, mais du coup on a pu partir aux Émirats Arabes Unis. Au départ on devait partir pour 3 ans, donc je me souviens qu'on avait préparé, qu'on l'avait annoncé. Donc là à nouveau apprentissage de l'arabe au lycée français, donc dans la classe on était 5 à être d'origine française, les autres parlaient français mais plus d'origine pays du Maghreb, Liban... Syrie, etc. Et en fait, l'aventure s'est terminée très rapidement, au bout de 6 mois, puisque là-bas, il y a des pratiques telles que les pots de vin. Et en fait, c'était soit mon père se pliait à ses nouvelles coutumes, soit on rentrait. Et du coup, lui a décidé de rentrer. Donc, ça a été une expérience assez courte. Pour moi, c'était génial parce qu'en 6 mois, on avait déjà fait le programme de l'année scolaire entière. Donc, les 6 autres mois, quand on est rentré en France, c'était très tranquille. C'était par exemple le week-end, c'est le jeudi vendredi, donc rien que ça, c'est s'adapter à ces nouvelles règles du jeu. Il y avait le ramadan, donc pendant le ramadan on finissait les cours à 13h, et donc c'était comment ça fonctionne là-bas, et puis en même temps voir aussi la réalité qu'il y avait derrière, parce que ce qu'on voit en premier, effectivement, c'est ces grands buildings, c'est ces grands shopping malls. Donc ça brille de partout, l'herbe est super verte alors qu'il fait 40 degrés. Et en fait, derrière, on a découvert aussi l'envers du décor, avec des ouvriers qui étaient très peu équipés, avec des histoires de papier qui étaient conservées, où les gens ne pouvaient pas repartir dans leur pays. Et en même temps... la découverte du désert, donc c'est toujours très contrasté en fait. Il y a des prises de conscience et il y a des choses qui choquent aussi et qui nous rappellent. Enfin, moi, ça m'a permis au fur et à mesure des voyages de vraiment choisir ce que je voulais garder de ma culture. Et puis là où je voyais que en fait c'était mieux de faire différemment parce que je découvrais d'autres manières de faire, de composer comme ça et au fur et à mesure, j'ai l'impression que ça m'aidait à me découvrir ou me redécouvrir moi-même, quoi, de me rapprocher de qui j'étais.
Donc quelque part, toi, tu en as fait une richesse parce que tu aurais pu vivre ça comme une frustration d'être extraite d'une bulle de confort, quitter ton environnement social, quitter tes amis. Ça peut être perçu, enfant, comme un déracinement. Mais toi, tu en as fait une force, une richesse.
Oui, et je me souviens quand même que j'aimais bien écrire petite, et en Grèce, ça n'avait pas été facile parce que j'étais quand même amoureuse de mon voisin, et donc là, on partait loin de... Mais je me souviens que ça a été source de créativité, puisque du coup, j'écrivais des histoires où je creusais des sous la terre, on arrivait à se passer des messages sous terre, comme ça, à l'aide de petites souris qui nous aidaient, et donc ça a été fertile. Enfin, il y avait quelque chose de... C'est pas parce qu'on est loin qu'on perd le lien aussi. Enfin, donc, même si j'étais loin, que c'était un nouveau départ, il y avait quand même, et je me souviens d'amis que je me suis faite en Grèce, avec qui j'échange toujours, et on a correspondu longtemps. À l'époque, c'était des lettres, mais on s'envoyait des lettres, et ça le fait pas avec tout le monde, mais il y a quand même des rencontres qui peuvent être marquantes et qui, malgré la distance, sont toujours vivantes, quoi.
Si tu devais mettre des mots sur les expériences vécu, sur ce que ça a pu t'apporter dans ta vie de jeune adulte, qu'est-ce que tu pourrais poser comme ça, le fait d'avoir pu voyager avec ta famille pour des raisons professionnelles qui sont celles de tes parents?
Moi je dirais comme ça, ouverture d'esprit, recul, curiosité. Je pense que je l'étais déjà, mais que ça a nourri encore plus ce truc de tiens, il y en a qui font différemment, c'est génial, enfin allons voir quoi. Et universalité. Parce que ce qu'on découvre aussi, même si c'est des manières de se nourrir, des manières de vivre, des horaires qui sont différents, on peut aussi connecter avec qu'est-ce qui fait qu'on est être humain et que malgré les différences, qu'est-ce qui nous rassemble, quoi.
Tu rentres en France ou comment tu finis tes études? Comment ça se termine? Parce que je sais que par la suite, tu as voyagé aussi. Donc là, c'était plus pour des raisons personnelles. Parle-moi de la suite de ton aventure et de la manière dont tu as choisi de rentrer dans cette vie d'adulte.
Bon, on est rentré donc suite à cette expérience aux Émirats Arabes Unis. Moi, j'avais toujours quelque part cette envie de repartir voyager, et donc j'ai eu l'opportunité dans le cadre des études de faire un semestre d'échange donc dans l'université de mon choix de par le monde. Donc après, c'était fonction de si on était plus ou moins bien classé qu'on pouvait choisir le pays de sa destination. Mais moi, je voulais partir au Brésil. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'étais très connectée au Brésil. Alors j'hésitais entre Brésil et Mexique. Et genre 2-3 jours avant de faire le choix définitif, j'ai rencontré des Brésiliens dans Bordeaux à l'époque. Et donc je leur disais Mexique, Brésil. Ils disaient ah bah Brésil. Donc forcément je suis partie au Brésil. Et voilà, donc j'ai bougé pour les études. Et après, c'est plus la vie, j'ai l'impression aussi, qui m'a... où j'ai suivi un petit peu des propositions de la vie. Parce qu'après le Brésil, je suis revenue en France. Je cherchais un stage en France. Et je trouve une annonce, une offre de stage qui me fait rêver. J'en voyais pas beaucoup, et puis là, ça me faisait envie. Et je n'avais même pas vu que c'était à Tahiti. C'est quand on m'a proposé l'entretien en me disant bah, « Pour caler l'heure de l'entretien, il faudra prévoir 12 heures de décalage. » J'étais à commencer à 12 heures de décalage horaire. Et là, je regarde un petit peu plus attentivement l'annonce et je vois « Ok, Polynésie française, Tahiti. » Alors, j'avais aucune idée de où c'est... Enfin, je savais que c'était dans l'océan Pacifique, mais du coup, je me mets à chercher. Et puis là, je zoome, je suis « Mais c'est minuscule, c'est perdu au milieu de rien. » Et puis bon, en fait, ça se fait. Et puis bon, moi, j'étais très nature. Je me suis dit « Bah ouais, ça a l'air beau quand même. Allons-y, quoi. Allons-y. » Donc, c'est des propositions. Voilà, là, c'est, moi, j'ai l'impression d'y être pour rien, quoi. En plus, j'avais un poste qui était bien payé à Paris, à La Défense, pour un grand groupe et tout. Bon, et moi, j'ai dit « Non, mais non, en fait, moi, je vais en stage à Tahiti, quoi. » Parce que... voilà, il y a aussi le lien avec des cultures qui sont encore en lien avec leur culture traditionnelle. Donc ça m'intéressait. Voilà, il y a un rapport à la terre, aux éléments à Tahiti qui est assez fort. Ils parlent du mana, de l'énergie. Donc bon, même si je connaissais pas bien, je me disais oui, il y a quelque chose à aller voir, quoi. Et effectivement, ça a été très très nourrissant. Moi qui adorais marcher pieds nus, j'étais toujours passée pour une extraterrestre en France. Mes parents, ils supportaient pas quand j'étais pieds nus dans le jardin. Bon, mais pour le coup, là, je me suis fait plein de copains. Enfin, là-bas, tout le monde marche pieds nus. Enfin, et du coup, voilà, ça m'a aidée. Enfin, moi, en partant à l'autre bout de la Terre, je pouvais pas partir plus loin, parce que c'est vraiment à l'opposé du globe. Ben, j'ai l'impression d'avoir reconnecté avec qui j'étais vraiment, enfin en tout cas avec ce qui était important et admirative aussi de toutes ces traditions, ces savoir-faire. Je me souviens, donc j'ai appris la danse tahitienne là-bas, et il y a un mois, des festivités autour de la danse, des jeux, des sports traditionnels, et donc là c'était toutes les familles. Mais pas que de l'île de Tahiti, hein. C'était toutes les familles qui étaient autour de la confection des costumes traditionnels, parce qu'il fallait telle fleur, qui avait telle couleur, qui venait de telle île. Et donc c'était une organisation de fou pour arriver à faire les costumes qu'avec des matières qu'on trouvait là-bas. Et voilà, et cet engouement, tu vois, le sens du collectif, où c'était la famille, on avait des cousins là, dans telle île, qui allaient pouvoir aller cueillir la fleur ou ramasser le coquillage qu'il fallait, et c'était pour honorer un petit peu leur savoir-faire et célébrer, quoi, célébrer tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose de très doux. Bon, moi je suis un peu dynamique, pour pas dire speed, et c'est vrai que la notion du temps, du rythme, de, en fait il fait beau, quoi. Il fait beau souvent, presque tous les jours, donc tout va bien. En fait, si ça se fait pas aujourd'hui, ça se fera demain. Et c'est vrai qu'au début, je le vivais mal, tu vois, de... Bon, ils m'ont planté 3 fois, là, sur le rendez-vous. Qu'est-ce que ça va donner au 4e ? Et ça m'a permis de trouver un équilibre, parce que finalement, on y prend goût, quoi. Et je suis rentrée parce que j'avais peur. Je me disais que plus je resterais là-bas, plus ça serait difficile d'en partir, et j'ai l'impression que c'était vraiment à part du reste du monde, quoi. Parce que déjà, il y avait un jour de décalage par rapport aux informations, et puis je voyais que de moins en moins ça m'intéressait, parce que la vie simple, la nature, enfin le quotidien, ça devenait suffisant. Je me suis dit, oh là là, en fait, si je pars maintenant, sinon je pense que je resterai toute ma vie, quoi.
Et cette notion du rapport au temps que tu évoques est intéressante. Ça me rappelle aussi un Africain qui me disait une fois dans un voyage, vous en Europe, vous avez la montre, nous ici, on a le temps. Ouais. Et c'est vrai qu'on passe notre temps à courir après le temps. Et c'est peut-être la seule chose qu'on ne peut pas acheter, donc arriver à se libérer l'esprit pour apprécier ce temps libre. C'est vrai que c'est une richesse, vraiment. Tu dis, donc, tu sentais que c'était le moment pour toi de partir, parce que sinon tu allais rester là-bas. Mais pourquoi ne pas rester là-bas, si c'est un petit coin de paradis ?
Eh ben... Oui, c'est une bonne question que je me pose souvent en hiver. Je me dis, mais pourquoi je suis rentrée ? C'est pas possible. Moi qui adore le chaud et tout. Et en fait, bah, j'étais au début de ma carrière professionnelle. J'ai fait un stage et ensuite j'ai travaillé là-bas. Donc c'était mon premier boulot. Et en fait, j'avais envie de voir autre chose, quoi. Voilà, Et puis il y avait ce truc d'être loin de la famille, si jamais il se passait quelque chose pour les parents ou quoi, il y avait ce truc de... Mais bon, c'est... Et puis une sensation aussi de tiens, ok, j'ai passé 3 ans, j'en ai profité, continuons l'aventure en fait, continuons de découvrir d'autres horizons, quoi.
Donc ça a duré 3 ans quand même sur Tahiti. De quel âge à quel âge ?
Oh ben, je sais plus, j'ai plus trop la notion, mais je crois que c'était 23-26, quoi, quelque chose comme ça.
Et tu rentres en France, et quelle est la suite ?
Alors, je rentre en France au mois de mai. Là, il y a un mois de mai horrible avec beaucoup de pluie. Je me dis, c'est pas possible. Et non, et ensuite, je me suis réadaptée, réacclimatée. Ça a mis 1 an quand même au niveau des températures, tout ça, pour que le corps il se réadapte. Et après, ben, j'ai... Ah non, voilà, je me suis dit, tant que j'ai le temps. Parce que je m'étais dit que je prendrais quelques mois. Je vais aller en Inde. Parce que je pratiquais déjà le yoga depuis 4-5 ans. Enfin, j'avais toujours été curieuse de la tradition indienne. Je me suis dit, bah, voilà, plutôt que de prendre des cours de yoga en France, je vais aller voir. Et j'avais déjà fait un stage de yoga avec un maître indien qui avait un ashram du côté de Rishikesh. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, allons rendre visite à Sanchriari, que j'avais rencontré déjà. Et donc, j'ai passé un mois là-bas à pratiquer yoga et méditation, à visiter un tout petit peu les alentours. Parce que la petite histoire, c'est que 2 jours après être arrivée à Rishikesh, je suis tombée sur une dame de Tahiti. Donc, putain, mais... Mais là, ça fait un bug dans mon cerveau. Et en fait, elle connaissait beaucoup le coin. Et donc, elle a pu m'emmener ensuite dans des montagnes, dans des grottes, pour méditer avec des Indiens là-bas. Et ensuite, bah, j'ai enchaîné avec, à mon retour d'Inde, recherche de boulot et puis une voie un peu plus classique.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Dans les voyages, il y a quelque chose que tu évoques. Je trouve que c'est pas forcément anodin. J'aimerais qu'on développe ça, ou voir en tout cas quel est ton point de vue. Tu dis, et comme par hasard, il y avait une dame qui venait de Tahiti, alors que toi-même, tu venais de rentrer de là-bas. Souvent, dans le mouvement ou dans le voyage, il y a ce qu'on va appeler des synchronicités. On va faire des rencontres qui, des fois, sont au-delà du possible, au-delà du probable, dans des situations juste incroyables. On va rencontrer la personne qui va nous permettre de peut-être nous donner une clé pour aller mieux ou pour pouvoir faire des rencontres dont on a besoin. Comment, toi, tu interprètes ce genre de rencontres providentielles ?
Alors, je l'explique pas, mais par contre, de le vivre... Enfin, et c'est souvent pendant les temps de voyage que moi je l'ai vécu, de connecter à ça, ça permet de connecter vraiment à la magie de la vie et que c'est juste incroyable, quoi. Et de pouvoir comme ça le vivre une fois, deux fois, plusieurs fois, bah ensuite on a envie de le revivre au quotidien, quoi. Mais ça me dépasse un petit peu. Il y a un voyage que j'ai fait au Costa Rica. Je m'étais dit, ben tiens, oui, j'aimerais bien aller à la rencontre de tribus de là-bas. Il y en avait plusieurs, mais c'est devenu un peu touristique, donc il fallait payer un droit d'entrée, un machin. J'étais, ah non, moi, j'ai pas envie que ça se passe comme ça, quoi. Et j'étais dans le sud du Costa Rica, et 2 jours avant de partir, en fait, il y a un guide, donc la trentaine, qui arrive, Juan. Il nous dit, il propose aux gens qui étaient à l'auberge de jeunesse, là, bah tiens, si vous voulez, demain, je vous emmène à la cascade. On dit, ah, ben cool, super. Et en fait, moi, dans le groupe, j'étais la seule à parler espagnol. On commençait à vachement sympathiser. Et en fait, à la fin de la journée, il dit ah, bah, si tu veux, enfin, est-ce que ça te dit de venir rencontrer ma grand-mère, ma tante, qui sont dans les montagnes? Je fais, bah, oui, oui, carrément. Donc, j'ai quand même une petite voix qui me dit, non, mais attends, tu vas pas partir toute seule avec un guide que tu connais pas. Donc, je demande un peu au village, voilà. Et ils m'ont dit, non, non, mais Juan, c'est un guide certifié. Il est connu dans la région. Tu peux y aller les yeux fermés. Donc, on a acheté un paquet de riz. On y est parti. Et ça, en fait, je ne l'ai pas organisé, ça s'est fait. Et j'ai l'impression que quand t'envoies, et moi, ça s'est produit quelques fois comme ça, t'envoies une demande, et après, je ne sais pas, je vais utiliser le mot, si c'est juste pour toi, ben, ça se fait, mais c'est incompréhensible, quoi.
Quelqu'un me disait, j'aimais bien cette notion de plan, quand t'as pas de plan, c'est le plan divin qui va te guider.
Oui, alors moi je suis quand même quelqu'un qui aime bien planifier à la base, qui aime bien organiser, nanana. Et je me souviens en Inde, je me disais, ben tiens, aujourd'hui j'aimerais faire ci, ça, ça et ça, le matin. Et en fait la journée se passait, je faisais pas du tout ce que j'avais prévu de faire, mais c'était... 10 fois mieux. Enfin, c'était incroyable, quoi. Tu rencontrais la personne qui te parlait de la conférence ou du petit concert le soir que t'avais pas prévu. Je me souviens, j'ai atterri dans un mariage, enfin, où on nous a appris les danses traditionnelles. Enfin, et ça, voilà, je suis d'accord. C'est le plan divin. C'est un bien meilleur organisateur que nous, avec notre petit mental tout resserré, qui pouvons pas du tout anticiper tout ce qui peut se passer, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Alors aujourd'hui, je dirais que je suis une âme qui a eu envie d'expérimenter cette expérience humaine et qui a plaisir à... Voilà, à naviguer dans cette vie avec son lot de surprises, son lot parfois de difficultés et son lot de magie, quoi.
Tu parles d'expérience humaine, de quelle expérience tu parles? C'est quoi cette expérience humaine qu'on est là pour vivre?
Je pense que chacun vient pour une raison, ou en tout cas des choses à expérimenter. Je pense que ça fait référence à des prises de conscience qui nous aident à grandir, en fait, en tant qu'être humain, à évoluer et à devenir plus sage, plus humble, enfin, de se rapprocher de notre nature. Donc d'aller... à l'essentiel, et au fur et à mesure, moi je prends souvent l'image de l'oignon et qu'on doit enlever des couches une par une. Donc on arrive, on est tout vierge, ensuite on grandit voilà, dans un certain contexte qui nous donne des premiers repères pour arriver à cheminer un peu dans cette vie. Et ensuite le but, c'est de se défaire et d'aller plus vers l'essentiel et de ce qui nous fait vibrer et qui nous rapproche de notre nature, à savoir des êtres de lumière, d'amour, de tous les possibles.
Tout est possible. Marie-Laure, il y a aussi l'écologie qui occupe pas mal d'espace et de place pour toi. Est-ce que tu peux revenir sur ça? Comment, à quel moment tu as été dans cette conscience de l'urgence du changement, ou de l'urgence de faire autrement, ou de te rendre compte qu'aujourd'hui, l'écologie doit être priorisée dans tous nos choix de vie?
Alors, urgence, je sais pas, mais je me souviens que les premières prises de conscience étaient en Grèce. Donc voilà, en voyant ces forêts brûlées, il y avait aussi pas mal de marées noires, de traces de pétrole sur les plages. Ensuite, du côté de chez moi, il y a eu aussi des marées noires, des tempêtes qui ont fait que voilà. Donc de suite, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas normal, quoi. Enfin, c'est pas un truc. Ou alors de voir une ville jonchée de déchets, c'était juste pas beau et pour moi, c'était pas normal. Et petit à petit, voilà, je me suis informée. En tout cas, moi, j'ai vraiment le sentiment d'être venue pour participer à cette transition qu'on a à faire. Ça devient moins urgent, même si, je sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression que plus on voit que c'est urgent, plus il est important de prendre le temps aussi de se poser, juste de réfléchir pour voir où est-ce qu'on peut être le plus efficace, le plus pertinent. Et pour moi, c'est encore une... Là, je passe de l'écologie pratique à l'écologie intérieure, parce que pour moi, ça n'est que le reflet D'une vision qu'on a qui peut être un peu erronée ou coupée de notre nature. Et c'est pour ça que, voilà, quand je suis allée au Brésil, les peuples premiers, leur manière de vivre me parle beaucoup. Et je pense qu'on a beaucoup à s'inspirer de leur lien avec cette nature, cet environnement dont on fait partie. Hein, mais, donc il y a un côté où c'est urgent. Et en même temps, je pense que plus ça devient urgent, plus voilà, on voit tout ce qui fait plus sens. Et ensuite, le déclic, pour moi, il va se faire. Enfin, il est déjà en train de se faire, on le voit. Mais...
Dans ce que tu dis, donc j'entends, tu parles d'écologie intérieure, tu parles de sens. C'est vrai qu'on est dans un monde où on a tendance à s'adapter, voire à se suradapter à un système, sans forcément réfléchir à cette notion du sens. Très tôt, enfant, on nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand. Donc on est formaté pour aller dans une direction qu'on n'a pas forcément consciemment choisie, mais qui répond souvent à une attente de ses parents, une attente de sa famille, ou peut-être même d'un prof, ou tout un système. Et plus tard dans la vie, on entend parler de cette notion du sens, cette quête de sens que tu utilisais comme mot aussi. Donner du sens dans ce qu'on fait, trouver sa place. Comment on fait ? Comment est-ce que toi, tu t'agites ? Ou comment est-ce que toi, tu fais pour mettre du sens dans ce que tu poses au quotidien ?
Oh, moi, je galère, hein. Franchement. Je trouve que... Enfin, tu vois, je suis... Ouais, c'est pas facile, hein. C'est à chaque fois, je pense, mettre un tout petit peu de conscience sur pourquoi on a envie de faire telle chose. Qu'est-ce qui nous anime ? Quelle valeur ça va venir remplir ? Mais j'ai pas l'impression d'avoir encore trouvé ma place. Je sais pas si on a une place, mais en tout cas, au fur et à mesure que j'évolue, il y a des choses qui font plus sens, d'autres qui deviennent un peu plus prioritaires, et c'est s'écouter, voilà, et puis accepter aussi l'idée qu'il puisse y avoir des changements dans nos valeurs, dans ce qui compte pour nous. C'est un chemin. En fait, pour moi, le sens, c'est de cheminer. Et de voir qu'est-ce que nous amène ce chemin et aussi comment on réagit. En fait, pour moi, on est il y a ce qui se présente et c'est comment on va le vivre et comment on donne du sens à ce qui nous arrive. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses, on ne sait pas pourquoi, mais on l'a vécu, on le vit et après, c'est nous qui créons le sens aussi et qui donnons du sens ou pas aux choses. Non, mais c'est une super question. Voilà, je pense que c'est à chacun de se faire sa propre réponse. Mais
cette question, c'est aussi à chacun de se la poser, cette notion d'alignement ou d'être à sa place. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis consciemment et pleinement heureux dans ce que je fais ? Et je crois qu'on a le droit d'être heureux. Enfin, c'est clair qu'on a le droit de l'être. Donc c'est bien des fois de se reposer la question et de voir où on en est sur cet équilibre intérieur. Est-ce que là, je me sens vraiment à ma place et s'autoriser à changer quelque chose dans sa vie ? Et je crois que c'est, je sais plus qui disait, mais si tu fais ce que tu aimes, tu ne travailleras plus jamais aucun jour de ta vie, quelque chose comme ça. Et un autre indien, un sage indien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Satish Kumar, disait, mais arrêtez de chercher un travail. Maintenant, il faut le créer. On est dans un système en transformation, donc soyons le changement. C'était Gandhi qui disait ça, que nous voulons voir dans le monde. Donc ne plus vouloir rentrer dans une case, mais des fois s'en extraire pour créer sa propre réalité et donner du sens à sa vie à travers ça.
Mais oui, je te rejoins complètement. Et tout à l'heure, tu disais, quand on est enfant, on nous demande qu'est-ce que tu veux faire. Donc déjà, ça nous place dans une activité. Et pour moi, la question, c'est plus qui tu veux être, en fait. Quel être humain tu veux être. Et après, bien sûr, ça se traduit par des actions. Mais pour moi, c'est vraiment de travailler sur ça, sur sur quoi j'ai envie d'évoluer, de grandir, dans la compassion, dans la générosité, dans s'aimer soi-même. Et après, l'activité, c'est presque anecdotique. C'est un support qui permet l'expression de qui on est. Mais j'ai l'impression que les jeunes, voilà, je vais faire ma vieille, les jeunes d'aujourd'hui, ont ce sentiment de ne plus vouloir travailler. Enfin, cette notion évolue et du coup, c'est comment je peux contribuer, comment je peux œuvrer, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer et de transformer dans ce monde. Et j'ai l'impression qu'ils arrivent plus jeunes avec ces questions-là et je trouve ça super. De sortir des sentiers battus. De toute façon, voilà, on a vu où est-ce que ça menait. Je pense qu'on est beaucoup d'accord sur le fait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc là, on est dans une phase exceptionnelle. Enfin, moi, je suis trop contente de m'être incarnée à cette période. Il se passe plein de trucs. Enfin, ça évolue énormément et on est à un stade de l'humanité où je pense qu'on vit des grands changements et à une vitesse très rapide. Et moi, il me tarde d'avoir 70, 80 ans pour me dire waouh, de faire comme mon grand-père qui a découvert Google Maps ou Skype, de faire waouh. Enfin, c'est fou tout ce qu'on a vu comme évolution dans notre vie, quoi.
Je vais te la poser la question, donc pas qu'est-ce que tu veux faire, mais qu'est-ce que tu veux être. Donc qu'est-ce que tu veux être, Marie-Laure ?
Bah, je veux être un rayon de soleil pour les autres. Voilà, moi je trouve que c'est précieux. Tu disais tout à l'heure, on a le droit d'être heureux. Enfin, je trouve qu'on a aussi le devoir. Il y a des choses difficiles qui se passent, mais c'est qu'est-ce que je veux partager aux autres. Et donc, quel cheminement intérieur je fais pour que... Voilà, et qui fait que je vais rayonner ou je vais diffuser tel ou tel aspect, quoi. Et donc, je pense que c'est hyper contagieux quand t'as quelqu'un qui est en joie, qui est libre dans ses choix, qui est dans une certaine... Alors, je dis pas que c'est tout le temps, hein, mais c'est d'être conscient. Voilà, moi, j'ai envie d'être de plus en plus consciente dans ma vie. Et donc, c'est où est-ce que je pose mon regard, mon attention? Qu'est-ce que j'inspire et je diffuse aux autres, quoi. Et j'espère que c'est positif.
Ce mot conscience, comment tu le définis ? Qu'est-ce que c'est que la conscience ?
Pour moi, la conscience, c'est ne plus subir, ne plus être une coquille de noix qui se laisse porter comme ça sur l'océan. C'est de mettre de la clarté, d'essayer d'être le plus à l'écoute et le plus en lien possible avec ce qui est là, ce qui est vivant sur le moment. Et pour moi, ça passe de moins en moins par le mental. Arriver à être connecté à des ressentis, à de l'intuition, à tout ce qui fait qu'on est... Le mental, c'est génial, hein, enfin, c'est un super outil. Mais je pense qu'on est allé trop loin dans notre utilisation de cet outil, qu'il faut revenir à... Pourquoi et pourquoi j'utilise cet outil ? Et du coup, c'est l'attention, c'est ce regard, c'est ce recul pardon qu'on prend pour observer la situation de plus haut, sans être collé dedans dans le truc et être traversé comme ça. On ne sait pas pourquoi. C'est ok, il se passe ça. Bon, qu'est-ce que j'en fais ?
Dernière question, c'est quoi ton rêve ?
Mon rêve de faire un podcast. Donc je suis en train d'en vivre un, c'est génial.
Voilà. Merci Marie-Laure.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. Le podcast s'appelle Regarde ailleurs et donne la parole à ceux que je rencontre sur mon chemin de photographe voyageur, ceux que j'aime interviewer, ceux qui pour moi sont inspirants, partant de l'idée qu'une personne, que le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à en retrouver d'autres sur toutes les plateformes de streaming en tapant Regarde ailleurs.